Diriger une question de discussion par journaliste. À vous la parole, messieurs.
Alors, bonjour à tous. Et je voulais faire peut-être une mise au point sur nos chiffres avant un autre week-end, bien que nous sommes un jeudi. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire un peu le point sur la situation des derniers jours et dire qu'on doit continuer d'être très prudent. Aujourd'hui, on a fait une mise au point des données. Vous avez vu dans le communiqué de presse qu'on a annoncé 499 cas qui ont été déclarés, mais c'est important de préciser que pour la région de Montréal en particulier, il y avait un rattrapage de l'ordre de 222 cas dans la semaine précédente. Ces cas ont été ajustés dans nos documents, comme on le fait. Madame Drouin l'a dit ce matin pour Montréal, que malgré cette situation-là, et je pense que c'est la bonne nouvelle, que pour le moment, la région de Montréal demeure dans la zone jaune. Puis je pourrais y revenir à vos questions pour plus de détails si vous en avez besoin. Ce qui fait que la moyenne quotidienne sur 7 jours, en ce moment, lorsqu'on a mis les bons cas dans les bonnes dates, c'est que notre moyenne est d'environ 300 cas par jour. Ça, c'est la moyenne pour ce qu'on appelle notre moyenne mobile là, pour les 7 jours. Puis ça représente, parce que les gens commencent à bien comprendre un des indicateurs, à savoir le nombre de cas par million, ça représente à peu près 30 cas par million. Puis je le mets en comparaison parce que les gens nous demandent souvent comment ça se compare à d'autres. Les gens en France en ce moment vivent environ à peu près 150 cas par million. Nous, on est à 30 cas par million en ce moment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour ce qui est des hospitalisations, je vais juste donner quand même quelques statistiques parce que vous vous souvenez, dans les dernières semaines, je disais souvent, certaines personnes nous disent, bien, il n'y a pas d'impact sur les hospitalisations, il n'y a pas de décès, on ne voit pas de gens aux soins intensifs. Pour ce qui est des hospitalisations, aujourd'hui, je le répète, nous avons une augmentation de 6 cas, dont 3 personnes aux soins intensifs. Et nous avons donc aujourd'hui un total de 136 hospitalisations, dont 29 qui sont aux soins intensifs. Finalement, nous avons malheureusement 3 décès de plus et je veux offrir mes condoléances aux familles et aux proches de ces gens-là. Bon, je veux rappeler tout d'abord que les 3/4 du Québec est en jaune. C'est donc... Je dirais, vous le savez, on l'a mentionné avec le premier ministre un peu plus tôt cette semaine. C'est donc partout qu'on doit être prudent. Mais je vais le dire qu'on le sent depuis quelques jours, puis on a beaucoup apprécié ce qu'on a senti sur le terrain, que les Québécois ont entendu notre appel parce que on l'a senti dans la réaction, puis peut-être un des signes, ben, c'est justement ce qui s'est passé au niveau d'achalandage dans les centres de dépistage. Bon, je sais que plusieurs, puis vous aurez le droit de poser toutes vos questions aujourd'hui, vous allez demander, vous avez hâte de connaître nos actions puis nos mesures pour certaines régions, parce qu'on vous avait dit qu'il y avait des zones qui étaient sous examen. Et moi, j'aimerais en même temps vous dire, puis je très, très à l'aise du travail qui a été fait par la santé publique, particulièrement au cours des derniers jours, quand on est dans ces zones-là qui sont difficiles puis qu'on essaye de contenir la courbe. J'aimerais ça que vous expliquiez qu'on va prendre bien notre temps pour poser les bons gestes, mais en même temps, de bien analyser la situation, parce que la situation, on est toujours inquiet, mais il faut tenir ça de très près à chaque jour, puis jamais nous allons prendre une décision que l'on croirait erronée parce qu'on a la pression de faire des choses. Puis ça, je pense que les Québécois doivent s'en rendre compte. Oui, les gens avaient dit qu'on avait un ton je dirais, important cette semaine. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense qu'on a raison de le faire, mais en même temps, on va faire les gestes au bon moment. Bon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la santé publique nous suggère que les régions restent en jaune pour celles qui avaient été annoncées. Donc, on est toujours dans les 8 régions. Par contre, ce que j'aimerais vous rassurer en même temps, c'est que si jamais on avait besoin de faire passer des régions au palier orange au cours des prochains jours, nous allons le faire. Et dans certains cas, ça pourrait être nécessaire dans les prochains jours. Donc, le résumé, c'est qu'on va le suivre de très, très près. Bon. Une autre chose. J'aimerais passer un message aux Québécois très clair que vous avez la chance au cours des prochains jours de faire en sorte que votre région ne passe pas à l'orange. Je sais qu'on le dit, les gens commencent à réaliser qu'est-ce que c'est que l'impact de passer à l'orange, mais je vous rappelle que les cas qu'on vit aujourd'hui, donc le 250 cas là, qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un résultat du long week-end, c'est le résultat des 5 à 10 derniers jours qui fait qu'on a des cas aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on ait 250 cas, mais j'ai quand même, encore une fois, le passé des derniers jours, énormément de tests qui ont été faits, il va rentrer encore beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que je redis et qu'on vous redit, en fin de semaine, on a encore une chance de faire des bons gestes, de suivre les mesures sanitaires, et ça pourrait faire une grosse différence la semaine prochaine. Bon. J'aimerais rappeler que, aussi, mardi, j'ai mentionné que les bars, je pense que ça avait été très clair, que les bars, même s'ils servent de la nourriture, j'ai eu une mauvaise expression, j'ai parlé de mec croquette, j'aurais dû parler de croquette, on me l'a reproché, mais à partir de mardi, j'avais mentionné que les bars ne pouvaient plus servir d'alcool après minuit. Et ça, ça inclut aussi les restaurants et les microbrasseries. Alors donc, dans tous les établissements qui vendent de l'alcool, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool à partir de minuit. En terminant, puis ça, je pense que c'est important pour moi, je voudrais faire des excuses publiques à la dame qui coiffait dans les résidences pour personnes âgées. Je dois vous dire que je lui ai parlé hier, premièrement pour prendre de ses nouvelles et de lui dire que j'étais désolé de la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va très bien. Elle se remet très bien de ce qui lui est arrivé. Et je lui ai dit que je garderai de ses nouvelles, que je l'appellerai encore quelques fois, parce que j'ai trouvé l'incident très malheureux pour moi, pour elle, et je voulais le mentionner publiquement, que je m'en excuse de ce que j'ai pu lui faire. C'était vraiment pas mon intention. C'était une maladresse et je me suis excusé et je m'excuse publiquement. Alors, je termine en disant que, avant de passer à l'anglais, que deux choses aujourd'hui, on a des chiffres qui sont encore, je dirais, importants. On peut faire une grande différence dans les prochains jours et je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire un effort particulier au cours du week-end. On a vu que ça a eu un impact le week-end dernier et je pense que si on fait encore les bons gestes au cours des prochains jours, je serais même tenté de penser que quelques zones pourraient passer au vert, mais ça sera la santé publique de nous le dire dans la prochaine semaine. A few words in English.
OK, mais ça, c'est à la toute fin. Ils nous avaient gardé le meilleur pour la fin, Valérie. Là, si on est sage, si on est écoutant, comme on dit des fois à nos enfants, il y a certaines régions, là, il y en a quand même 8 actuellement qui sont en jaune, il y a certaines qui pourraient peut-être retourner au vert. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'est excusé, on en avait parlé, il s'est excusé.
On sent vraiment qu'il l'a pas fait pour...
Il n'a pas fait par exprès.
Méchamment, exactement. Non, on parle de maladresse.
C'est ça. Et puis là, il a précisé ce qu'il avait annoncé pour les bars. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'à partir de minuit, il n'y a plus d'alcool, pas juste dans les bars.
Non, les restos également, les microbrasseries qui vont devoir arrêter de servir de l'alcool après minuit.
Voilà, c'est ça. Et puis là, il a essayé de mettre, comme on dit en bon français, un spin positif sur les chiffres. Il dit, écoutez, si on regarde la moyenne des 7 derniers jours, on est autour de 300 cas par jour. Oui. Donc, 30 cas par million. La France, c'est 150 cas par million.
Quand on se compare, on se console.
C'est ce qu'on dit. Oui, voilà, exactement. J'ai un peu de misère à suivre dans ces calculs, par exemple, parce qu'il nous avait dit qu'à 160, on tombait à 20 cas par million. Là, à 300, il me semble qu'on est pas mal plus proche de 40 que de 30, mais en tout cas, regarde, on va lui donner le bénéfice du doute. Et puis, l'appel qu'on a lancé il y a quelques jours semble avoir été entendu avec l'achalandage au centre de dépistage.
Oui, on a vu ça hier, notamment à Longueuil, qu'il y avait passablement de gens qui étaient présents. Donc, il va certainement y avoir des cas positifs qui vont ressortir de ça.
Question maintenant.
Le document qui a été fuité sur les réseaux sociaux hier, qui a été présenté à la FMSQ, c'est finalement le document le plus à jour que vous avez, c'est ce que le ministère nous dit. Là-dedans, il n'y a rien à propos des mesures qui seraient prises dans les écoles, dans les régions où on bascule vers le orange ou vers le rouge. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ces écoles-là?
Bon, écoutez, premièrement, je veux juste faire une précision sur le document, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé, là, pour qu'il n'y ait pas de perception de mauvaise transparence ou quoi que ce soit. Ce document-là, qui a été utilisé au cours des derniers mois pour discuter avec plusieurs partenaires, pour discuter à l'interne, c'est un document, je veux pas dire un document de travail, mais c'est un document qui nous permet d'avoir des discussions très détaillées à l'interne. Et lorsque j'ai expliqué, et je veux le préciser, et lorsqu'on a présenté ce tableau-là de niveau d'alerte régionale avec la santé publique il y a une dizaine de jours, on avait expliqué les différents facteurs et les différents critères. J'avais pris pas mal de temps pour expliquer les trois types de critères qui étaient dedans. Bon, hier, on me disait dans l'opposition que c'était un manque de transparence, que ce qui avait été présenté aux médecins aurait dû être présenté au public. On a réagi rapidement, puis on l'a mis sur notre site web, parce que je pense qu'on a montré, effectivement, au cours des derniers jours et des dernières semaines, qu'on était excessivement transparent. Bon, maintenant, pour la question précise des écoles, les écoles ne sont pas traitées différemment. La seule chose qui nous permet de faire, c'est de travailler avec les écoles dans un contexte que je vous dirais qui est très différent. On ne peut pas regarder, puis j'aimerais ça que Dr Arruda complète, mais lorsqu'on parle de milieu de vie ou de milieu de soins, où les gens sont excessivement à risque parce qu'on a beaucoup de vulnérabilité, on n'est pas dans le même film lorsqu'on travaille avec les écoles. Alors, la présentation qui a été faite particulièrement aux spécialistes était beaucoup plus pour discuter avec eux des impacts d'une deuxième vague, si deuxième vague il y avait, pour être capable de voir, par exemple, puis vous avez vu que c'était un des éléments de discussion qu'on avait avec eux, l'impact sur le nombre de chambres, le nombre d'hospitalisations. Alors, on n'était pas dans la discussion particulière sur les écoles. Mais je laisserai peut-être le docteur Arruda compléter.
Si vous me permettez. Écoutez, je voudrais vous dire que ce guide-là qui est fait, d'ailleurs, c'est un document qui va être toujours en évolution, comme plusieurs documents qui est au CDC ou ailleurs, là, c'est toujours des choses qui vont en évolution parce que des choses peuvent évoluer. C'est pas une livre de recettes, puis je trouve ça très important que vous le compreniez, là. C'est pas parce qu'on atteint un seuil qu'automatiquement tout bascule de la même façon. On fait tous les soirs avec les directeurs de santé publique des régions une analyse à partir de cette grille-là, mais pour voir où on en est en termes épidémiologiques, quelles sont les éclosions qui sont là, c'est où les milieux de transmission, c'est-tu dans les bars, c'est-tu dans les rassemblements privés, parce que dans les faits, ce qu'on veut faire, c'est faire le bon diagnostic pour appliquer le bon traitement. Pour ce qui est des écoles, c'est sûr que les écoles, c'est un milieu qui est important pour nos jeunes. Il faut maintenir au maximum, comme on veut maintenir nos services essentiels, les écoles le plus possiblement ouvertes. Ce qu'on fait, c'est une intervention qui est très claire, école par école, milieu par milieu. Quand on va passer à différentes zones dans le futur, orange ou rouge, on va avoir aussi des analyses sous-régionales pour être capable de s'attaquer aux bons problèmes. Parce que le plus grand danger, à mon avis, c'est on peut même pas dire que c'est la même chose qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose qu'au Canada. Il faut vraiment faire un diagnostic. Donc, c'est un instrument comme tel. Et le danger de la publication d'un document comme ça, c'est que si on, les gens s'attendent qu'automatiquement, au moment où on va atteindre tel seuil, c'est telle action qui va se faire, c'est pas comme ça que ça va se passer. On doit vraiment faire un diagnostic, et je le fais tous les soirs avec les directeurs de santé publique de toutes les régions qui, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, vont me dire leur évaluation. Et ça va faire que, je peux vous dire de façon unanime, ça c'est très clair, de façon unanime, tous mes directeurs nous ont dit qu'on allait maintenir la situation telle qu'elle est actuellement. Ça ne veut pas dire qu'en fin de semaine, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ça va être autre chose. Mais actuellement, il faut faire bien les choses. Il faut aussi que les interventions qu'on a mises en place, qui sont faites, fassent leur effet avant de commencer à aller. N'oubliez pas, on veut une société qui fonctionne. On veut une société... On ne prendra pas de risque pour la population, là. Moi, je pense qu'il faut que vous compreniez ça. Mais aller trop vite aussi, ça pourrait nous amener à créer énormément d'effets pervers, à la fois chez la jeunesse et à la fois chez les personnes adultes. Fait que c'est tout ça qu'on regarde actuellement. Mais quand on vous dit « les rassemblements privés, c'est un problème », il faut comprendre que les rassemblements privés, c'est un problème. Il faut qu'on fasse notre énergie là-dessus. Quand on dit et c'est avec ça qu'on va être en mesure de faire la distinction. Donc, les écoles, ça va dépendre de ce qui se passe. Puis je tiens à vous dire, pour les fermer complètement, là, ou pour les rendre tous en télé-enseignement, il faut vraiment falloir qu'on démontre que c'est un milieu où il se passe quelque chose qui génère. Mais actuellement, là, même s'il y a des cas dans les écoles, on s'en attendait, c'est le reflet de ce qui se passe dans la communauté. Puis c'est pas un milieu de transmission intensive, c'est beaucoup plus les parties familiaux et familiales. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre.
Les demandeurs d'asile n'ont pas de carte de la RAMQ, évidemment, mais ils ont une carte de couleur brune, me dit-on. Comment vous expliquez, donc, dans le contexte qu'il y en ait, qui appellent pour se faire dépister, mais se fassent dire non? Puis pour moi, c'est un peu dans la même lignée que ceux qui se sont fait facturer des frais à l'hôpital. Ça arrive encore. Comment vous expliquez qu'on refuse des tests de dépistage à ces personnes-là?
Bien, la question, ça m'a été porté à mon attention ce matin, là, je dois vous le dire. Puis on va gérer ça parce que ces personnes-là ont droit à recevoir des tests. Il n'y a pas question qu'ils n'aient pas accès à ça. Là. On va faire des vérifications là où ça s'est passé, puis on va corriger le tir. J'ai été informé de ça ce matin très tôt, puis on va faire l'intervention.
Je vais vous inviter à des réponses concises si on ne veut pas être obligé de circoncire. Véronique Prince, maintenant Radio-Canada.
Oui, bonjour. Je me demandais si vous ne deviez pas mettre le Québec au complet en jaune. Pourquoi les zones vertes existent finalement? Est-ce qu'on n'est pas partout au Québec en état de préalerte et est-ce que les gens ne seraient pas plus sensibilisés si toutes les régions étaient jaunes?
Est-ce que je peux, pour faire des réponses concises, je vais dire rapidement. Pour moi, la grande différence entre une verte et une jaune, c'est vraiment le niveau qu'on appelle de préalerte. Et c'est pas des restrictions aux citoyens, mais c'est beaucoup plus d'être capable d'expliquer pourquoi on doit faire des interventions policières. Vous allez le voir en fin de semaine, Mme Guilbeault va venir expliquer les interventions qui seront faites au cours des prochains jours, mais vont se faire uniquement dans les zones jaunes. Parce qu'on ne peut pas attaquer le Québec au complet si on n'a pas besoin de le faire. Mais les interventions, c'est vraiment la différence d'être en vert ou d'avoir le niveau de préalerte. Donc, c'est la principale.
Ouais, ça c'est nouveau, là. Luc Lavoie, bonjour.
Oui, Bernard, je suis là.
Oui, alors évidemment, on continue.
Oui, je suis en train de prendre une note, justement, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important.
Là, il y a 8 zones en jaune. Là, il y aura des interventions policières en fin de semaine. On présume...
Madame Guilbeault doit faire une annonce, c'est ça que je viens
d'entendre. C'est ce que j'ai compris. Alors, est-ce qu'elle va faire l'annonce aujourd'hui? Est-ce qu'elle va faire un point de presse demain? Là, en tout cas, il nous a dit qu'elle va venir expliquer. Ça laisse entendre point de presse probablement demain.
Et il a parlé, il a dit spécifiquement concernant les interventions policières.
Oui.
Puis en ça précisant dans les ça va s'appliquer uniquement dans les zones jaunes.
C'est ça.
Parce que les zones vertes, il n'y aura pas d'intervention policière comme telle. Enfin, on essaie de décrypter, de déchiffrer tout ce qu'ils nous disent. Il y en a beaucoup, là, aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup, mais...
Tu trouves?
Pas vraiment d'annonce, c'est ça que j'allais dire.
Moi, je trouve pas qu'il y a tant de contenu que ça. Moi, je vais te dire, Luc,
C'est pas le contenu, c'est on pitch des chiffres de toutes les façons, puis les régions jaunes, puis les régions vertes, puis tout ça, c'est ce que je veux dire. Je m'excuse, t'as raison, Bernard, il n'y avait pas d'annonce substantielle aujourd'hui. Mais, il n'y en avait pas du tout, à part ses excuses publiques à la coiffeuse.
Ben, c'est ça. T'as-tu trouvé... Moi, je l'ai trouvé hésitant. J'ai trouvé qu'il y avait la voix un petit peu chevrotante, puis j'ai trouvé qu'il y avait qui avait un ton hésitant, un débit hésitant, le ministre, aujourd'hui.
Ben, j'ai noté la même chose, mais je l'interprète différemment. J'ai plutôt l'impression que c'était un gars qui est gêné. J'ai fait ça, puis je suis gêné.
Ah ouais, c'était en lien avec le... Ouais, bon, peut-être. Ah, ouais.
Je voudrais pas être le staff qui a mis cette statistique-là dans la tête. Là. C'est, enfin, cet incident-là dans la tête, là, parce qu'il devait pas être ben content d'avoir dit une pareille chose.
Ouais, là tu faut prendre le temps de l'expliquer. Là. Tu penses, toi, que c'est probablement un attaché politique ou un conseiller qui lui a dit, elle le savait, puis lui est allé le répéter en point de presse.
C'est ça. Et je suis pas mal sûr que c'est ça qui est arrivé. Puis effectivement, tu te souviens que ça nous avait fait dresser les cheveux sur la tête. Là. Ça veut pas de bon sens.
Ouais, ouais.
Effectivement, c'est pas le cas. Et cette
puis on s'est fié sur lui. On a repris son information parce qu'on s'est dit, quand le ministre le dit, c'est parole d'évangile. Là, sauf que là, il ne faut pas que ça t'arrive trop souvent, ça, là, de mettre en circulation des informations qui sont fausses comme ça. Là.
Mais tu sais, c'était un point de presse qui visait à dire aux gens, faites donc de ce week-end un week-end exemplaire de respect des mesures sanitaires. Et je ne peux pas être plus d'accord que lui. On traverse une zone turbulent, pour dire le moins. Et d'ailleurs, il doit peut-être regretter d'avoir utilisé le chiffre 160 il y a deux semaines. Hein?
Oui.
Il avait dit à 160 cas, là, on commence à être dans le trouble.
Oui.
Là, on est à une moyenne de 300 cas par jour.
Oui.
Ça devient pas mal plus sérieux. Là.
Oui, c'est ça.
Il aime ça faire la comparaison avec la France. Bon, peut-être, là, j'ai dit 30 cas par million au Québec, 150 en France. Il y a 5 fois plus en France.
Oui. Il y a des auditeurs qui ils l'ont écouté. Il y en a qui me disent, Luc, c'est davantage de la nervosité. D'autres me disent c'est peut-être de la fatigue. Moi, j'ai été en politique, là, puis toi, t'as été proche des politiciens. Faut jamais perdre de vue, puis je le fais moi assez souvent. Faut pas perdre de vue que c'est des êtres humains. Et puis t'as des journées où t'es moins bon, t'as des journées où t'es plus fatigué. Alors ça aussi, faut le prendre en considération.
Là. Ben oui, ils sont totalement, ils sont clairement épuisés un peu. Ils vivent sous une tension, mais complètement folle depuis le début du mois de mars. Les nuits ne sont pas sympathiques. Là. Tu sais, t'es là, puis tu te réveilles, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Puis écoute, je peux comprendre qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Et en fait, j'y ajouterais même, j'ai beaucoup d'admiration parce que jusqu'à maintenant, nos dirigeants, nos porte-parole officiels se comportent. Il n'y a pas eu de gaffe très, très grave à ce sujet-là.
Alors, on va s'arrêter là-dessus, Luc, parce qu'on va se reparler de l'autre côté de la pause. Parce qu'il y a une étude qui sort sur la confiance que vous avez envers le gouvernement. Vous allez voir, cette confiance-là est à la baisse. Et cette même étude aussi nous dit quelles sont les professions et les métiers pour lesquels vous avez le plus de respect, ceux que vous appréciez le plus. Et puis, évidemment, Luc, ben, on va regarder où les commentateurs, animateurs de radio et autres journalistes se trouvent là-dedans. Et on va dévoiler, évidemment, à nos auditeurs quelles sont les professions et les métiers qui reçoivent le plus de reconnaissance et d'estime. Donc, on se reparle, Luc, dans un instant. On s'en va à la pause au retour. Donc, on vous parle de cette étude très exhaustive.